Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 19h30 pardon, temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 22 août 2017, Morgane Guiriec en direct Washington DC. Au sommaire ce soir, au Nigeria, depuis le début de l'année, Boko Haram a utilisé 83 enfants comme kamikazes, dont 55 filles de moins de 15 ans. Libye, un ancien premier ministre est enlevé à Tripoli. Ali Zeidane est détenu depuis 9 jours par un groupe armé. Le Pakistan rejette l'accusation d'abriter des terroristes et réaffirme son désir de paix en Afghanistan. Et puis en Irak, les forces gouvernementales ont reconquis les trois premiers quartiers de Tal Afar, l'un des derniers fiefs du groupe État islamique. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Inondation en Guinée. Au moins 8 personnes sont mortes aujourd'hui dans l'éboulement d'une décharge de Amdalaï dans la banlieue de Conakry. La décharge est tombée sur 3 maisons. Il y a encore beaucoup de personnes sous les décombres. Il faut envoyer des machines. Le terrain est difficile d'accès, a indiqué le commissaire Cassé, directeur de la sécurité urbaine de Conakry. Inondation en Centrafrique, une centaine de maisons se sont écroulées à la suite de pluies diluviennes dans le nord de Bangui, forçant un millier de personnes à quitter leur domicile. C'est ce qu'a appris à l'AFP le ministère de l'Intérieur. Les quartiers de Ngola 3, Potopoto, Pekadis, Begwa et les villages de Nzako, Tugunfara ont aussi été touchés par les pluies, a constaté un journaliste de l'AFP. Accident de la route en Centrafrique toujours. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées à Boutili, à 63 km de la capitale Bangui. Un camion affrété par le Programme alimentaire mondial à destination de Bossangoa et Paoua a heurté un port samedi. Son conducteur a perdu le contrôle. Le bilan pourrait s'alourdir en raison de la gravité de l'état de certains blessés. 3 policiers nigériens ont été condamnés aujourd'hui à 1 an de prison ferme pour avoir battu un étudiant lors d'une manifestation réprimée mi-avril sur le campus universitaire de Niamey, a-t-on appris de sources judiciaires citées par l'AFP. Reconnus coupables de coups et blessures avec préméditation, ils doivent également verser 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. Conséquence des inondations la semaine dernière en Sierra Leone, les autorités touristiques déconseillent les bains sur les plages de Freetown. Plus de 60 corps y ont été retrouvés et l'eau reste chargée de débris dangereux. Le dernier bilan des inondations est coulé de boue en Sierra Leone et de 500 morts. L'UNICEF dénonce l'utilisation d'enfants, en majorité des filles, comme bombes humaines par les partisans de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. On fait le point avec Solange Niamoulissa.
Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants utilisés a été multiplié presque par 4 depuis le début de l'année par rapport à l'ensemble de 2016. 83 enfants ont été utilisés comme kamikazes, dont 55 filles âgées de moins de 15 ans. L'UNICEF a aussi compté 27 garçons, plus un bébé accroché au dos d'une fillette, ce qui est une atrocité d'après l'agence onusienne, qui considère que ces enfants sont avant tout des victimes et non pas des auteurs d'attentats. Boko Haram a parfois revendiqué la responsabilité des attaques contre la population civile. Plus d'un million de personnes ont quitté leur foyer dans le nord-est. L'insurrection islamiste depuis 2009 a fait près de 20 000 morts. En raison des violences, le nord-est du Nigeria est confronté au spectre de la faim, indique aussi l'UNICEF, avec plus de 400 000 enfants souffrant de malnutrition.
Et Nigeria, toujours la justice a ordonné la confiscation à titre provisoire de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole d'une valeur de 7 millions de dollars que les juges soupçonnent de provenir de détournements massifs de fonds publics. Sachez aussi que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, va être forcé de travailler depuis chez lui. Raison évoquée, des rongeurs ont endommagé ses bureaux pendant son absence de plus de 100 jours à Londres pour y être soigné. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la présidence. En Libye, l'ancien Premier ministre Ali Zeidan a été enlevé. Il est détenu depuis 9 jours par un groupe armé à Tripoli. John Lyndon nous en dit plus.
L'ex-premier ministre envisageait de tenir une conférence de presse le 13 août dans la capitale libyenne pour répondre aux accusations de ses détracteurs. Selon Karam Khaled, qui l'accompagnait, la visite de M. Zeidan a été préparée en coordination avec Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union. Une fois à Tripoli, poursuit-il, un groupe armé a tenté une première fois d'enlever M. Zeidan le 12 août, mais les gardes de l'hôtel se sont interposés. Ces hommes sont revenus le lendemain pour prendre Ali Zeidan, qui serait détenu par la brigade des révolutionnaires de Tripoli, une milice loyale au groupement d'Union. Pour l'instant, le gouvernement qui contrôle Tripoli reste silencieux sur le dossier. M. Zeidan a été chef du gouvernement libyen de novembre 2012 à mars 2014. Il avait quitté le pays dans la confusion juste après son limogeage par le Parlement, ses détracteurs l'accusant de détournement de fonds publics.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump peut-il, comme il l'affirme, régler le problème de l'Afghanistan ? Hier, il a révélé sa stratégie. Il n'envisage pas de retrait de troupes, mais plutôt, il compte envoyer du renfort. Ekabadou.
Mon instinct initial était de se retirer, mais les décisions sont très différentes lorsque vous êtes dans le bureau ovale. Parole du président américain hier soir à Fort Myer, non loin de Washington. Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il faisait une volte-face. Il a exclu tout retrait des États-Unis d'Afghanistan et même souhaite l'envoi de soldats supplémentaires. Il accentue même la pression sur le Pakistan, accusé d'être un repère pour les terroristes. Il a répété qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait un vide qui profiterait à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Un responsable américain a souligné que M. Trump a donné son feu vert au Pentagone pour le déploiement de 3900 soldats supplémentaires. Si la hausse n'est pas spectaculaire, elle marque cependant une inversion de tendance. Quelques 8400 soldats américains sont en Afghanistan au sein d'une force internationale qui compte au total 13 500 hommes et qui sert essentiellement à conseiller les forces de défense afghanes.
En Syrie, les combats font rage dans les zones les plus peuplées de Raqqa. Des dizaines de civils, dont des enfants, ont péri dans des frappes de la coalition dirigée par les États-Unis sur cette ville. La coalition confirme 250 frappes dans la zone, principal fief du groupe djihadiste dans le nord syrien, et dit vouloir enquêter sur les victimes civiles. Par ailleurs, les forces irakiennes ont reconquis 3 quartiers de Tal Afar, l'un des derniers fiefs des djihadistes dans le pays. Plus d'un mois après la reprise au groupe État islamique de Mossoul, la deuxième ville du pays, les troupes se sont lancées dimanche à l'assaut de Tal Afar, situé à 70 km plus à l'ouest, dans le nord irakien. C'est dans ce contexte que le chef du Pentagone, Jim Mattis, réaffirme son soutien aux forces irakiennes. En Espagne, les 4 suspects des attaques qui ont fait 15 morts en Catalogne ont été amenés au tribunal de Madrid. Ils doivent être inculpés 5 jours après le bain de sang revendiqué par le groupe État islamique. L'un des 4 suspects, Mohamed Ouli Chemlal, a admis devant un juge aujourd'hui que la cellule préparait un attentat de plus grande envergure. Du nouveau également concernant l'attaque au couteau de Turku en Finlande, le principal suspect a été placé mardi, aujourd'hui donc, en détention provisoire. Le triple talak est désormais interdit en Inde. La Cour suprême s'est prononcée contre le divorce par répudiation expresse de la femme autorisée par la tradition musulmane. Selon cette pratique jusqu'ici acceptée dans le pays, il suffisait à un musulman de prononcer 3 fois de suite le mot « je divorce », talak, 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 pour répudier sa femme. Coup dur pour la compagnie Johnson & Johnson qui a été condamnée par un tribunal de Los Angeles à verser la bagatelle de 417 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un procès lié à un talc pour bébé accusé d'être cancérigène. Les détails avec Salwa Jafari.
Eva Echeverria en larmes devant un jury qui lui a finalement donné raison. Le géant pharmaceutique américain devra verser 70 millions de dollars en dommages compensatoires et 347 millions en dommages punitifs. Echeverria, à 63 ans, soutient que l'utilisation du talc pour sa toilette intime a provoqué un cancer des ovaires. Le jury a estimé que la compagnie n'a pas informé cette femme des risques liés au talc. C'est la plus importante indemnisation à une plaignante qui affirme que le talc pour bébé est cancérigène. Le groupe a décidé de faire appel. Hormis cette affaire, Johnson & Johnson fait l'objet de quelques 1200 procès rien qu'aux États-Unis. Les plaignants accusent le groupe d'avoir dissimulé le potentiel cancérigène du produit. La compagnie qui commercialise ses produits en Afrique notamment fait face à quelques 4800 procès et le groupe pharmaceutique a été reconnu jusqu'ici coupable à 5 occasions mais a gagné un procès en mars dernier.
Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
Abidjan accueille cette semaine un atelier de formation sur le commerce international des services, une initiative de la CDAO et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Pour les organisateurs, les services peuvent aider à combattre la pauvreté sur le continent africain. Ils comprennent l'approvisionnement en eau potable, l'énergie, l'éducation, le transport et les télécommunications. L'atelier a pour but d'aider à améliorer les politiques publiques en matière de commerce international des services. Le Niger a décroché le prix international de la politique d'avenir octroyé par le World Future Council. Le prix est décerné aux meilleures politiques pour améliorer les conditions de vie des populations et des générations futures. Le Niger a été récompensé pour son initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette politique vise à vaincre la faim d'ici 2021. Pour le World Future Council, le pays a vu une augmentation de la culture irriguée et la récupération de vastes parties des terres arables. En Libye, la production de pétrole est de nouveau suspendue sur le champ d'Al-Sharara quelques heures après sa réouverture ce mardi. Des protestataires ont encore une fois fermé le léoduc qui conduit le pétrole jusqu'au port et à la raffinerie de Zawiya. Aucun groupe n'a revendiqué pour l'heure ce nouveau blocage. Al-Sharara produit plus de 200 000 barils par jour. La production est régulièrement perturbée par des conflits armés ou des revendications sociales.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La querelle entre Neymar et le FC Barcelone n'est pas close.
Le FC Barcelone a déposé plainte contre Neymar. Le Barça évoque un non-respect de contrat et réclame la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant brésilien. On le rappelle, il a été transféré début août au Paris Saint-Germain. Le Barça réclame également 8,5 millions d'euros de dommages. C'est ce qu'annonce le club catalan ce mardi. Le club précise qu'il réclame au Paris Saint-Germain le versement de ces sommes si l'attaquant brésilien n'est pas en mesure de le faire. Affaire à suivre.
Barrage retour de la Ligue des Champions à suivre demain soir.
Avec une confortable avance de 5 buts grâce à sa large victoire à l'aller, le Celtic Glasgow se déplace au Kazakhstan chez le FC Astana. Et puis Maribor qui accueille l'Apoel Bercheva, le club israélien qui l'avait emporté 2 buts à 1 à l'aller. Même avantage pour l'Olympiakos du Pirée qui se déplace chez Rijeka, le club croate. Et puis l'OGC Nice qui aura 2 buts de retard à remonter face à Naples. Enfin le FC Séville qui accueille avec un but d'avance l'Istanbul Başakşehir.
Afrobasket, dames, se poursuit au Mali.
Après la journée de repos hier, les basketteuses ont repris le chemin des parquets à Bamako. Le Nigeria et le Sénégal ont le sourire après leur victoire ce mardi, comme nous l'explique Amédine Sy sur place pour VOA Afrique.
Le Sénégal poursuit sa marche victorieuse. Les Lions ont signé leur 4e victoire d'affilée en dominant l'Égypte sous le score de 93-61 grâce à une excellente Assou Traoré, meilleure réalisatrice de ce match avec 26 points. Elle a été bien épaulée par Ramata Dao, auteur d'un double-double, 17 points, 12 rebonds. Les filles de Tafagaï ont dominé cette rencontre de bout en bout en remportant tous les 4 ans. En seconde heure, le Nigeria a surclassé la Guinée sur le score de 106-33. Comme les Sénégalaises, les protégés de Saint-Vincent balayent tout sur leur passage. D'ailleurs, le Nigeria, qui totalise 4 succès de rang, occupe la première place de la poule B devant le Sénégal. Ces deux formations se retrouvent demain au Palais des Sports.
Voilà, c'était Amdine Sy depuis Bamako pour l'Afrobasket qui se joue actuellement au Mali.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Nigeria, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence d'enfants kamikazes, dont des filles pour la plupart. Leur nombre a quadruplé par rapport à l'année dernière. Ces enfants sont utilisés par Boko Haram dans le nord-est du pays, marqué par le déplacement très fort de la population, où 450 000 enfants souffrent de malnutrition. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Genève, le porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulierac.
C'est une pratique épouvantable qui relève vraiment d'un niveau extrême de l'atrocité, qui consiste à utiliser les enfants, particulièrement les filles, pour procéder à des explosions, donc utiliser des enfants pour leur fixer des bombes sur eux dans des endroits souvent peuplés pour tuer non seulement évidemment ces enfants, mais également les personnes dans ces endroits.
D'où viennent ces enfants avant d'être enrôlés?
Ils proviennent souvent des groupes armés qui utilisent cette pratique atroce. Et au nord-est du Nigeria, c'est Boko Haram. Ces enfants sont avant tout des victimes. Ils ont été souvent recrutés de force, ils ont subi et enduré beaucoup de souffrances. Ils sont donc utilisés comme bombes humaines, ce qui a pour effet de compliquer leur réinsertion, en tout cas la réintégration, le retour à la vie civile des enfants qui ont réussi à quitter ou à s'évader de ce groupe Boko Haram, puisque l'utilisation des enfants crée de la suspicion, crée du rejet. Ceux qui réussissent à sortir des groupes armés ont d'autant plus de difficultés à se réintégrer dans la vie civile parce qu'ils sont soumis à des mécanismes de rejet, de stigmatisation, de peur.
Vous dites qu'ils sont victimes de stigmatisation, mais ils sont aussi auteurs de ces attaques.
C'est toujours difficile de dire qu'ils sont auteurs de ces attaques parce qu'ils sont manipulés, ils sont forcés, ils sont parfois drogués. Oui, vous avez raison, la population s'en méfie. Le retour à la vie civile de jeunes qui ont été dans des groupes armés est toujours compliqué psychologiquement, émotionnellement. Et il est clair que ce genre de pratique épouvantable qui est en pleine augmentation complique d'autant plus ce retour à la vie civile, de par la stigmatisation, de par le rejet additionnel que ces enfants qui souhaitent revenir à la vie civile inspirent aux communautés. Il y a beaucoup de travail à faire, travailler avec les communautés et faire en sorte que les personnes et les agents qui ont de l'influence dans ces communautés du nord-est du Nigeria arrivent à persuader les communautés, les familles, les villages à donner de la place et à accueillir ces enfants. Il faut aussi évidemment que ces enfants, une fois qu'un climat de réconciliation a pu être renoué, bénéficient aussi de soutien économique. Jusqu'à présent, nous avons pu aider 3000 enfants et 1200 familles dans cette région du nord-est du Nigeria, justement avec ce travail communautaire de promotion de la réconciliation, de l'acceptation, de la tolérance par rapport au retour de ces enfants.
Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève. Depuis 11 ans, les Togolais sont dans l'expectative de retrouver leur constitution dans sa mouture initiale. Pour y arriver, le 20 août 2006, un accord a été signé entre le pouvoir, les principaux partis politiques et la société civile. Mais les réformes n'ont toujours pas été opérées jusqu'à ce jour. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les Togolais ont soif de réformes. Soif de la limitation du mandat présidentiel et d'un scrutin à deux tours. Une soif qui perdure depuis le 30 décembre 2002, date à laquelle la constitution togolaise votée par référendum en 1992 a été toilettée. Le 20 août 2006, l'accord politique global APJ a été signé, suscitant l'espoir des réformes avant la présidentielle de 2010. 11 ans après, toujours pas de réforme. Il ne faut pas se leurrer. Le pouvoir de Lomé ne veut pas opérer les dites réformes, affirme Atiadam Tchikpi, président du Parti national panafricain PNP.
C'est le refus évident de l'alternance. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix et éternellement. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas faire de les réformes. Du constitutionnalisme, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire un pouvoir limité dans le temps et dans les prérogatives. Ils n'en veulent pas. Ils sont réfractaires à cette idée. Il y a longtemps que moi je suis revenu de mes illusions. Dialoguer et signer, et puis après, bon, on vous tourne en bourrique.
Une accusation que réfute le parti au pouvoir. Union pour la République unie persiste ici ne pas être contre la réforme. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR.
Personne n'est contre les réformes, ni le chef de l'État, ni le gouvernement, ni le groupe parlementaire UNIR, ni le parti UNIR lui-même. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont concernés par cette question puissent se mettre ensemble, discuter et aboutir à un consensus. Et ce qui se passe en ce moment avec la mise en place de cette commission qui est en train de faire un travail. On veut les réformes, mais nous souhaitons que ça se fasse dans un cadre consensuel. Parce que quelle que soit la formule adoptée, il faudra s'asseoir autour d'une table discuter pour aboutir à ces réformes.
Il ne faut pas seulement indexer Fogne Singbe et son régime. L'opposition leur a servi de béquille en participant aux élections sans les réformes, estime le professeur Togwata Pedoama.
Il ne fallait pas participer aux élections tant que les réformes n'ont pas été mises en route. Il ne faut pas cautionner la dictature en participant à des élections à tout prix. En réalité, c'est la mobilisation du peuple qui fera changer ce régime. Tant que le régime ne se sentira pas inquiété par une telle mobilisation, eh bien, les choses perdureront.
Sous l'ère de Fogne Singbe, les appels pour ces journées villes mortes n'ont pas connu de franc succès. Reste à savoir si avec cette nouvelle mobilisation, l'opposition togolaise aura gain de cause. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Le Maroc indigné. Une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes agresser sexuellement une fille dans un bus. Yacouba Ouédraogo a joint Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du Premier ministère chargé des droits de l'homme.
Il y a une vidéo d'une femme qui a été violée dans un autobus, publiquement, collectivement, sous le regard d'une population totalement différente. Bon, au début, on a cru que c'était une scène de cinéma, parce que ce n'est pas possible toute cette indifférence de tout le monde. Le chauffeur aurait pu conduire son autobus au commissariat le plus proche possible, faire descendre tout le monde devant un poste de police après avoir enferlé tout l'autobus pour punir ces violeurs.
Justement, la scène a eu lieu en mai. Pourquoi c'est maintenant que l'intéressé le poste sur les réseaux sociaux?
Est-ce pour envenimer déjà une situation qui est très tendue à cause des contestations qu'il y a au nord du pays, des constatations totalement sociales et l'engagement du roi d'ouvrir des enquêtes concernant les investissements dans le nord du pays pour encore alimenter le feu?
Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées?
Oui, déjà il y a eu des personnes arrêtées. La police judiciaire a déjà commencé par arrêter, par interroger les chauffeurs de l'autocar, chercher, identifier la victime qui a filmé et pourquoi elle n'a pas dévoilé ça avant.
On peut se demander bien pourquoi la victime elle-même n'a pas posé plainte.
Elle a peur certainement que ce gars-là la connaissait et qu'il lui dise si jamais tu déposes plainte, mon frère ou la médecin ou les autres garçons du quartier vont t'égorger. C'est certainement qu'elle a été menacée. Et deuxièmement, moi j'en sais rien, quand elle a vu l'indifférence d'une population, si elle n'est pas devenue déréglé, ce n'est pas devenu femme.
Il y a eu des arrestations. À quoi faut-il s'attendre?
Moi, j'espère que le Maroc va réviser sa politique en ce qui concerne la peine de mort et qu'on va commencer à prononcer des peines de mort. Parce qu'en matière de crimes de cette nature, l'amitié internationale et son abolition de la peine capitale, il serait mieux de nous foutre la paix avec. Hein. Un violeur dans un lieu public et collectivement, c'est quelqu'un qui n'a respect ni de sa société, ni de la femme, ni du sexe, ni des citoyens. La vie est un droit. Le respect de la personne humaine est un droit, le respect de la femme est un droit, le respect de la vie sexuelle d'une femme est un droit, le viol est un crime, le viol collectif c'est un crime avec circonstances aggravantes, le viol collectif dans un lieu public c'est un crime avec deux circonstances aggravantes, et à un moment donné il faut dire arrête.
Voilà, c'était Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du Premier ministère chargé des droits de l'homme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a révélé hier soir sa stratégie pour l'Afghanistan. Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il faisait une volte-face. Il a exclu tout retrait des États-Unis et même souhaite l'envoi de soldats supplémentaires en Afghanistan. Est-ce que l'approche est nouvelle ? Idriss Fall a joint à Paris Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS.
Non, je ne pense pas qu'il y a de nouveau. C'est vraiment très classique. Soutien au gouvernement afghan, envoie des renforts demandés par les militaires américains. C'est quelque chose que dans le passé a été fait à plusieurs reprises. Moi, je ne vois pas vraiment de nouveau. Hein. Et d'ailleurs, la proposition du président américain n'est pas du tout conforme à ce qu'il disait auparavant. Que ce soit pendant la campagne électorale, que ce soit après, où il préconisait le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. C'est vraiment la poursuite de la stratégie qui a été appliquée auparavant. Le président américain a suivi les recommandations de sénateur John McCain, plutôt, qui, après un voyage d'Afghanistan, il a dit que nous n'avons pas besoin une nouvelle stratégie, il faut aider le gouvernement afghan, envoyer un peu de renfort pour préparer la situation, pour négocier finalement avec les talibans.
Quand même, il accuse le Pakistan d'abriter des terroristes.
C'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les Américains ont accusé le Pakistan de jouer un double jeu. C'est uniquement pour satisfaire le gouvernement afghan. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement fondamental de la politique américaine vis-à-vis du Pakistan, parce que le Pakistan aussi, il lutte contre les terroristes. Le Pakistan aussi est victime de terrorisme. Certes, le Pakistan soutient les talibans afghans, mais lutte contre les talibans pakistanais et contre l'Al-Qaïda. Les États-Unis n'ont pas de moyens de pression énormes sur le Pakistan.
La Russie est déjà passée par là. Les Anglais ne sont jamais arrivés à coloniser l'Afghanistan. Est-ce que les États-Unis, après 16 ans de présence en Afghanistan, la solution peut être militaire?
Les États-Unis sont passés également. Hein. Dans les années précédentes, les Américains avaient jusqu'à 150 000 soldats en Afghanistan et n'ont pas obtenu de succès sur le plan militaire. Ils étaient obligés de mettre fin à la mission de l'OTAN et de retirer leurs soldats. Et maintenant, lorsqu'on n'a pas arrivé à obtenir un résultat avec 150 000 soldats, on ne peut pas obtenir avec l'envoi de 4 000 soldats supplémentaires qu'avec 8 000 déjà présents, ça fait 12 000. 10 fois moins de soldats américains qu'il y a 3 ans.
Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS en France.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.